Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 138 de la balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom n'est pas Abdou Sal, mais bien Julien Turcotte. Je suis cofondateur du groupe La Monoplace et peut-être avez-vous été averti lors de la diffusion du dernier après Grand Prix, durant lequel Abdou annonçait que j'allais animer là, cette édition 138 du podcast. En raison de son absence, là, malheureusement pour Abdou, il ne pouvait se présenter. Beaucoup de pression pour moi aujourd'hui. C'est très difficile de me comparer à quelqu'un d'un aussi grand talent que notre cher Abdou Sal, mais je vais tenter de faire de mon mieux. Puis je suis convaincu qu'avec mes invités, ça va très bien se passer également. Par ailleurs, sujet peut-être un peu controversé qu'on va aborder aujourd'hui, soit celui de Lance Stroll. Beaucoup d'articles médiatiques ont été publiés dernièrement à son sujet, à l'effet qu'il nuisait à Aston Martin, qu'il ne livrait tout simplement pas la marchandise comparativement à un Fernando Alonso qui, lui, de son côté, malgré l'âge honorable de 43 ans, semble être excellent. Donc, je vais demander l'opinion de chacune des personnes présentes ce soir. En premier lieu, avec Émile Légaré-Turcotte, mon frère et cofondateur de La Monoplace. Bonjour, Émile.
Salut Julien, ça va bien?
Ben oui, ça va toi?
Il va très bien.
Merveilleux. Donc ensuite, on accueille Marc-André. Comment ça va Marc-André?
Ça va Julien.
Merveilleux. Et puis de ton côté, Charles Manta, également modérateur de La Monoplace.
Ça va super bien. Et toi Julien?
Ça va très bien. Je te le remercie de le demander. Et enfin, Carl Souza Teixeira, comment ça va Carl?
Ça va super bien. Pas besoin de te demander comment tu vas.
Merveilleux. Toujours fan de Minardi?
Toujours fan de Minardi 2001. Je t'invite au groupe Facebook des fans québécois de Minardi, mais bon, l'invitation ne semble pas résonner avec toi, donc j'attends encore ta réponse.
Je rejoindrai le groupe lorsque Ferrari gagnera un championnat du monde. Donc, je me permets d'abord de vous poser la question. Allons-y tout simplement avec les points. Fernando Alonso a 99 points. Lance Stroll a 35 points. Désormais, dans le championnat des constructeurs, Aston Martin est à 134 points et a été dépassé par Mercedes, qui détient 152 points, notamment grâce à l'excellente performance de Lewis Hamilton et de George Russell lors du Grand Prix d'Espagne. S'il n'en était que de Fernando Alonso et d'un pilote avec à peu près le même nombre de points, alors Aston Martin aurait substantiellement une bonne avance sur Mercedes. Donc, dans les faits, est-ce que Lance Stroll demeure un pilote qui doit demeurer chez Aston Martin, à votre avis?
C'est sûr que si je peux me permettre rapidement, on oublie un facteur qui n'est pas à négliger, puis j'ai fait des petites recherches aujourd'hui. Au niveau de la blessure que Lance Stroll a subie avant la saison, puis pourquoi c'est important d'en parler, je vais faire un parallèle avec le cyclisme, avec le meilleur cycliste au monde, qui est Tadej Pogacar, qui a subi la même fracture que Lance Stroll. Et pourquoi c'est important d'en parler, c'est que Lance Stroll est revenu au jeu en piste seulement 2 semaines, 3 semaines même après son opération, tandis que Tadej, lui, va peut-être revenir au Tour de France, qui est 3 mois, même 4 mois après son opération. Donc, il faut dire qu'il, dans un contexte de Formule 1, où est-ce que la force de tout le corps est demandée, avoir un poignet qui est peut-être pas à 100% peut justement venir nuire à une performance d'un pilote. Est-ce que cela, s'il était à 100%, viendrait être égal à Fernando Alonso, je crois pas. Mais tout de même, sa performance, connaissant la condition dans laquelle il est présentement, reste très, très, très moyenne. Donc, il n'est pas en pleine capacité, à mon humble avis. Donc, il faudrait peut-être peser sur le gaz un peu et dire, écoute, le kid est revenu rapidement. Il rapporte des points à son écurie, mais il faut comprendre non plus qu'il n'est pas à 100%.
Marc-André?
Bon, je pense que le point de Charles est excellent, puis si on va au-delà de ça, je crois que sa performance à Bahreïn lui a mis énormément de pression sur lui, ou tout simplement, les gens mettent beaucoup de pression sur lui après avoir eu cette performance en considérant sa forme physique. Maintenant, je suis pas médecin, est-ce que sa forme lui permet d'être à son 100%? Sûrement pas. Donc, c'est certain que ça doit être pris en compte. Maintenant, est-ce que Lance Stroll, maintenant, j'imagine qu'on va en discuter, mais plusieurs personnes remettent en doute le fait que Lance Stroll soit en Formule 1. pour ma part, je trouve que c'est un pilote qui est assez constant. C'est un pilote qui a des bons départs. C'est un pilote qui, au-delà des Brandon Hartley de ce monde qu'on a connu, qui ont resté seulement un an, je trouve que Lance Stroll possède les aptitudes pour être en Formule 1. Mais là, c'est certain qu'avec Aston Martin, c'est rendu une équipe de pointe. Donc, au-delà de sa condition physique, je crois qu'il va devoir prouver des choses cette année. Mais effectivement, ça se peut que la fin de sa saison soit bien meilleure s'il est en meilleure forme.
Carl, de ton côté?
Quant à moi, je vais aussi me permettre une petite comparaison, mais cette fois-ci avec un pilote de la NASCAR. Celui-ci est Paul Menard, qui est le fils de justement de John Menard, qui est propriétaire d'une écurie justement de NASCAR. Paul Menard était un pilote qui, si je me trompe pas, a pris sa retraite, mais qui était pilote de NASCAR tout de même, avec un père propriétaire. La décision qui a été prise par son père était de justement le tasser de côté pour faire place à des pilotes de haut calibre afin de justement donner une chance à cette écurie de mener un combat au championnat. Quant à moi, la situation entourant Lawrence et Lance Stroll, quant à moi, la solution se trouve dans le même ordre d'idée que ce que les meneurs ont fait. Ceci étant que Lance Stroll puisse peut-être rester en Formule 1, mais avec une écurie qui n'est pas en mesure de se battre pour le championnat du monde, car comme on peut le voir et comme Lance Stroll l'a démontré au courant de ses 7 ou 8 dernières années au sein de la Formule 1, ben il n'a tout simplement pas cette consistance à l'année longue afin de pouvoir aider Aston Martin à justement sécuriser sa deuxième place au championnat qui est tant convoité et qui est justement la mire de Mercedes et Ferrari. Donc, à mon sens, Lance Stroll n'a pas le calibre non seulement d'un Alonso, mais d'un deuxième pilote d'une écurie qui mène le championnat comme un Bottas, comme un Massa, comme un Perez. Lance Stroll n'est tout simplement pas là, quant à moi.
Émile, pour ta part?
Ben écoutez, je veux dire, mon avis sur Lance Stroll est assez mitigé parce que si je voulais vraiment y aller avec la voix facile, tout ça, je pourrais juste regarder ses résultats en course puis dire que pour la voiture qu'il a, je pourrais dire c'est décevant. Tout ça, oui, il peut être constant, rapporter quelques points, mais c'est quand ton coéquipier, en comparaison, ramène des podiums à pratiquement toutes les courses, on pourrait dire qu'il n'est pas à la hauteur des attentes, tout ça. Mais je pense que la bête noire vraiment de Lance Stroll, c'est vraiment la pression qu'il vit à tous les jours. Il faut dire, bon, tout d'abord, son coéquipier Fernando Alonso, quelqu'un qui est connu pour pratiquement ramasser ses coéquipiers, les battre de pleine couture, autant sur la piste qu'en dehors de la piste. Faut dire après ça qu'il y a la pression de son père, évidemment, que même si son père l'aide beaucoup dans sa carrière, tu veux toujours essayer de satisfaire, tu veux toujours satisfaire celui-ci, tout ça. Puis évidemment, la pression des médias qui n'excite pas à le ramasser, à le juger de tous les côtés. Surtout qu'en plus, c'est quelqu'un qui s'exprime très peu dans les médias, tout ça. Donc ça, je pense, ça joue énormément sur son moral. Tout ça. C'est peut-être pour ça qu'on voit pas des résultats comme, par exemple, des podiums comme il l'avait fait en 2017 ou même en 2020 lorsque l'écurie s'appelait Racing Point, tout ça. On parlait de la blessure, tout ça. C'est un point qu'on peut prendre en compte, tout ça. Je pourrais dire, par contre, qu'on a vu d'autres pilotes en Formule 1 se blesser avec de pires blessures qui sont revenus et remporter quelques points. Ben, en tout cas, plus de points que Lance Stroll, tout ça. Donc, ce serait ça mon avis sur Lance Stroll.
Super intéressant, merci beaucoup. Pour ma part, dès son arrivée en 2017, là, Lance Stroll partait avec 2 prises. Il est rentré avec Williams en 2017 et n'a jamais eu à conduire en Formule 2, ce qui faisait déjà l'objet de critiques assez épouvantables à son égard. Parce que l'autre pilote qui pouvait se targuer de ne pas être passé par la Formule 2, c'est Max Verstappen, alors que le niveau des deux n'est évidemment pas le même. Ensuite, Lance Stroll rentre avec une contribution financière de son père à Williams d'une hauteur de 80 millions de dollars. Évidemment, c'est mal vu pour Lance Stroll. C'est un pilote qui est tellement facile à critiquer à partir du moment où il performe moins bien. Mais pourtant, à chaque fois qu'il réussit à avoir des performances exceptionnelles, je pense notamment à Bakou, 2017, où il a obtenu un podium. Je pense également à sa pole position en Turquie. Ne serait-ce que son début d'année aussi, après s'être relevé d'une blessure, après avoir manqué l'ensemble des tests hivernaux, puis d'avoir très bien fait lors de sa première course, je veux dire, on parle d'exploits, mais qui semble être oublié tellement rapidement à l'égard de Lance Stroll en raison du fait que son père était soit un important contributeur d'une écurie ou tout simplement le propriétaire d'une écurie, que tout ce qu'il va faire va être au final détourné à la négative. Puis c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je vous dirais que je le vois toujours en F1. Est-ce qu'il a obtenu beaucoup plus de chances que d'autres pilotes de demeurer en F1? Ça, c'est absolument. C'est catégorique de mon côté. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres pilotes qui sont demeurés beaucoup moins longtemps que Lance Stroll. Parlons de Stoffel Van Dorn, parlons de Pascal Wehrlein, qui avaient un potentiel intéressant, même Brandon Hartley, mais qui n'ont pas eu la chance de demeurer en F1 comme Lance Stroll, étant donné qu'il n'avait pas le bagage financier du pilote canadien. On voit beaucoup cette année un changement d'attitude assez intéressant de la part de son coéquipier Fernando Alonso. Donc, Charles, tu l'as mentionné, là, comme quoi c'est pas un coéquipier qui est facile normalement avec les pilotes qu'il va accompagner. Cependant, on voit avec Lance Stroll que ça semble être tout le contraire. Certains diront qu'il y a probablement une clause de mentorat dans le compteur d'Alonso. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du pilote espagnol à l'égard de Lance Stroll?
C'est sûr que je vais prendre la balle au bon là-dessus. C'est sûr que c'est un changement d'attitude drastique, puis j'ai même renchérir sur le point qu'Émile a apporté. T'sais, je crois que ça peut juste faire du bien à Lance et le permettre de se développer davantage que s'il était tout seul devant le feu des projecteurs. T'sais. Puis on va y aller avec une comparaison. D'après moi, c'est le podcast des comparaisons aujourd'hui. Je vais pas me baser sur le talent, mais sur la pression qu'il y a pour faire revigorer l'image de la course. Mais je vais le comparer un petit peu à Connor McDavid. T'sais, la pression que par la part de la Ligue nationale pour justement être le porte-étendard de ce sport-là. Puis, d'après moi, c'est un petit peu la même chose que Lance Stroll vit présentement. Où est-ce que c'est le seul pilote canadien en piste. Il représente tout le Canada et on sait que le Canada est très fier de son histoire automobile et surtout qu'on a cultivé de très grands champions. Et le fait que Fernando Alonso soit présent, soit là pour le supporter, un petit peu comme un deuxième papa. Il va l'encourager dans ses virages. Fernando va prendre le temps de regarder ses dépassements à la télévision lorsqu'il conduit. Je crois que ça peut juste l'aider à se développer, mais tu sais, c'est à lui de prendre cette chance-là, puis c'est à lui de prendre cette aide-là et de devenir le pilote que tout le monde croit qu'il est en mesure de devenir, parce que je crois qu'il y a une base de la haine envers Lance Stroll et du fait qu'il ne répond pas aux attentes qu'on avait en lui. Peut-être qu'on le voyait pas comme championnat du monde, mais on le voyait à un niveau d'un très solide fond de premier peloton, là, tu sais, un top 5, top 6 pilote, et chose qu'il a de la difficulté à faire de façon constante dans les dernières années. Là.
Marc-André, l'effet d'Alonso sur Lance Stroll, puis est-ce que Lance Stroll est un peu le Connor McDavid de la Formule 1?
Mais ce que je trouve intéressant, puis tu sais, on parlait tantôt de Lance Stroll qui a amené son fils en Formule 1, qui lui a payé un baquet, mais malgré tout, tu sais, il le suit dans sa carrière, il est propriétaire de l'équipe. Mais malgré tout, ce serait si facile pour Lance Stroll de le mettre avec un jeune pilote, de ne pas lui mettre de bâton dans les roues. Mais il lui a mis Perez, il lui a mis Vettel, il lui a mis Alonso. C'est quand même des pilotes qui sont très forts. C'est des pilotes qui sont très solides. Donc, je pense qu'après tout, tu sais, quand tu regardes avec Alonso, effectivement, ça a été un changement drastique d'attitude. On l'a vu lors du dernier Grand Prix. Il ne l'a même pas attaqué. Il lui a laissé la voie libre, sûrement pour lui redonner confiance en vue d'obtenir de meilleurs résultats en tant qu'équipe lors des prochains Grands Prix. Mais je trouve ça intéressant de voir Alonso avoir cette attitude-là parce que je pense que ça va être bon pour Stroll. Ça va lui enlever un peu cette pression de devoir tout faire, de devoir occuper l'espace, un peu comme il avait avec Vettel. Vettel n'était sûrement pas le papa dans l'équipe et c'est sûr que là, Stroll commence à vieillir puis à un moment donné, les chances vont passer. Mais j'ai l'impression que cette année, s'il continue dans le chemin qu'il a fait lors du dernier Grand Prix, il pourrait apprendre des choses.
Merci beaucoup, Marc-André. De ton côté, Karl?
Ben, de mon côté, je vais aller à l'encontre de Marc-André. Je trouve au contraire que Lance n'a pas assez de pression sur ses épaules. Du simple fait qu'il n'est pas renvoyable. Lance Stroll a eu la chance d'avoir plusieurs mentors depuis son arrivée. Il a eu la chance d'avoir Massa, qui est l'un des pilotes avec le plus d'expérience en F1. Vettel, qui a 4 championnats du monde. Bon, on oublie Sirotkin, mais il a aussi eu Perez. Donc, l'arrivée d'Alonso, je vois pas en quoi ça va venir changer ou réveiller quelque chose en Stroll. S'il a déjà eu par le passé la chance de collaborer avec de grands pilotes, quant à moi. J'apprécie néanmoins l'attitude qu'Alonso a face à Stroll, qui arrive là, non pas pour le démolir, mais pour le supporter, pour le faire monter à son niveau. Par contre, je vois pas en quoi ceci, à long terme, va améliorer les performances de Stroll. Je suis de l'école des gens qui pensent que la pression fait remonter la performance en Formule 1. Et le simple fait que Stroll ne soit pas renvoyable, n'ait pas cette pression de performer continuellement, quant à moi, ça peut lui enlever le seul 10% de plus de performance ou de drive qu'il aurait besoin afin de devenir un pilote digne du devant du peloton.
Émile, tu de quel côté?
Écoute, pour ma part, pour en revenir à Alonso, tout ça, puis comme on disait un peu plus tôt, on disait qu'il y avait la réputation de détruire ses coéquipiers, tout ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'avec Lawrence Stroll, j'ai l'impression que Lawrence Stroll a découvert une partie que le grand public, on ne connaît pas. Là. Comme je disais un peu avant, Stroll est très discret avec les médias. Quand il fait des entrevues, il reste le plus neutre possible, tout ça. J'ai l'impression que même si Fernando Alonso aurait pu se faire offrir une clause dans son contrat pour dire, en tout cas avoir une job de mentor face à Stroll, je pense que Alonso est vraiment honnête dans sa démarche de vouloir aider Stroll, tout ça, parce que je pense qu'il voit un certain potentiel dont la plupart on voit pas. Puis aussi, autre détail important, j'ai l'impression que cette année, Lance Stroll va essayer de performer, mais au lieu, admettons, d'y aller comme en 2020 où à chaque Grand Prix, il essayait de performer, mais faisait des erreurs qui pouvaient coûter cher. Je pense juste au Grand Prix à Mugello où grand accident, tout ça. J'ai l'impression que cette année, il va y aller un peu plus à sa vitesse, tout ça. Il va vouloir upgrader, si je peux dire ça, comme ça, plus lentement, mais pour apporter des points plus souvent. Il va vouloir le moins de pression possible. Et j'ai vraiment l'impression que Fernando Alonso a vu ça dans Lance Stroll. Là, évidemment, cette année, on a vu quelques grands prix où ça s'est vraiment très mal passé pour Lance Stroll, tout ça, comme par exemple, je pense à Monaco, entre autres. Il faut dire que aussi ses qualifications ne semblent pas s'améliorer, tout ça. Mais je pense que ça va être très intéressant dans les futurs Grands Prix de voir l'évolution de Lance Stroll. D'ailleurs, le prochain, c'est le Grand Prix de Montréal. Un Grand Prix où Lance Stroll a quand même, mis à part peut-être 2018 et son accident avec Brendan Hartley, je pense que Montréal est un excellent circuit pour Lance Stroll. Donc, j'ai hâte de voir ça avec quoi ses résultats sur ce circuit-là. Et de voir vraiment son évolution et comment il va entamer le reste des courses.
Super intéressant l'ensemble de vos opinions. C'est arrivé à une seule reprise au final que Lance Stroll a eu un coéquipier très moyen, voire médiocre, c'était Sergei Sirotkin. Lors de cette année-là, évidemment, Lance Stroll l'avait battu. Il faut dire que les voitures étaient également assez médiocres. Là. Stroll avait marqué 6 points en 2018 alors que Sirotkin en avait marqué 1. Et puis, Stroll avait eu deux reprises et avait réussi à terminer dans le top 10 d'une course alors que Sirotkin, ça n'était arrivé qu'une fois. Sinon, je suis parfaitement d'accord avec Karl ainsi que Marc-André. De façon différente, là, je suis tout à fait d'accord avec Marc-André à l'effet que chacun des coéquipiers de Lance Stroll était somme toute très, très bon, que ce soit Felipe Massa, Sergio Perez, que ce soit Sébastien Vettel, voire Fernando Alonso. Mais je partage également l'avis de Karl à l'effet que non seulement Stroll a obtenu plusieurs mentors au cours de sa carrière, cependant, peut-être que le fait qu'il y ait une place quasi garantie ça lui enlève une certaine forme de pression. Cependant, j'ai ajouté un bémol là-dessus. J'ai pas l'impression qu'après cette année, du moins si les performances de Lance Stroll continuent telles quelles, que le siège de Stroll va demeurer aussi garanti. Faut se rappeler que Lawrence Stroll a acheté Aston Martin avant toute chose pour faire de l'argent. Il a voulu refaire la marque. Il est allé chercher un Sébastien Vettel parce que le deuxième marché des Aston Martin en importance après le Royaume-Uni, c'était l'Allemagne. Ça semble avoir bien fonctionné. Ça a repopularisé la marque britannique en Allemagne. Ensuite, il faut consolider la marque aussi en F1. Donc, de quelle façon est-ce qu'il fait ça? Il fait en construisant une nouvelle usine à Barclay. Il fait en ramenant Honda en 2026 en F1, ce qui est un investissement majeur, évidemment. Il fait en amenant un double champion du monde qui est probablement le pilote le plus apprécié sur la grille présentement, qui est Fernando Alonso. Donc, si Aston Martin veut maintenir cette espèce de hype, vous me pardonnerez l'anglais, il va falloir que Stroll démontre tout son talent cette année, d'autant plus que l'Aston Martin est particulièrement bonne. Année charnière pour Stroll, il va également devoir très bien performer à Montréal. C'est son circuit, une tribune à son nom, la tribune Kane, si je me rappelle bien. Donc, beaucoup de pression pour lui, mais je suis assez confiant là, qu'il nous offre une belle prestation. Ça m'amène à penser, bon, j'ai toujours beaucoup de difficultés à savoir à quel endroit Lance Stroll se situe là, en le comparant aux autres pilotes qui sont présentement sur la grille. Est-ce que c'est un top 5, un 5 à 10, un 10 à 15, un 15 à 20, bref? En premier lieu, j'aimerais que vous soyez en mesure de me dire à quel endroit à peu près vous le voyez sur la grille, puis qu'est-ce qui lui manque pour s'améliorer. Je vais commencer cette fois-ci, on va changer les ordres là, par Karl.
Ben, très bonne question, excellente question, Julien. Quant à moi, je vois Stroll présentement comme faisant partie du top 15. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est le pilote le moins talentueux sur la grille. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un pilote qui est lent. On a pu voir à plusieurs reprises que c'est un pilote qui a énormément de talent. Par contre, son talon d'Achille, c'est la constance. Historiquement, on croyait Stroll comme étant un pilote qui pouvait exceller sous la pluie, mais bon, une fin de semaine sur deux, c'est un accident bidon qui arrive, la fin de semaine d'après, sous la pluie, ben c'est une performance exceptionnelle. Donc, quant à moi, Stroll a ce talent-là, et on a pu voir, il a gagné un championnat quand même de formule italienne, de la F4, donc, et il a battu certains pilotes de renom. N'empêche...
Formule 3 également. Faut pas
le dire. Merci Julien. Donc tout pour dire que le talent est là, le talent existe. Au-delà même de certains pilotes qu'on pourrait qualifier de pay driver. Terme qui aujourd'hui ne veut plus dire grand-chose, soi-disant. Je veux dire, selon cette définition-là, Lando Norris est un pay driver au même niveau que Lance Stroll. Par contre, comme je l'ai mentionné, Lance Stroll manque énormément de constance et contre un pilote de la stature d'Alonso, chaque erreur va paraître mille fois plus parce que la performance de la voiture est là, la performance du coéquipier est là. Donc, je reviens encore à mon point initial que j'ai mentionné les quelques minutes de Paul Menard et la situation autour de son père. Si j'étais Lawrence Stroll, ce que j'aimerais faire, ce serait de offrir une chance à mon fils de croître en Formule 1, mais ça serait de lui trouver un siège ailleurs que chez Aston Martin. Une écurie autre qui lui permettrait de justement grandir en tant que pilote, qui serait un endroit afin qu'il puisse maîtriser certains aspects de sa conduite qui aujourd'hui ne maîtrise pas encore, et de donner ce second siège-là à un pilote qui mérite justement cette chance-là de se battre à l'avant.
Avant de laisser quelqu'un d'autre prendre la parole, je vais juste continuer sur ton point, Karl, en ce qui a trait à ses accomplissements, plutôt en Ligue junior. Là, Lance Stroll, en 2016, lorsqu'il a remporté le championnat de Formule 3, d'abord, c'était à 507 points, loin devant un Maximilian Günther, qui était à 322 points, devant George Russell, Nick Cassidy, Callum Ilott, Antoine Hubert, Joe Guanyu. On parle pas de petits pilotes, là. C'était vraiment des pilotes de grand talent. que Lance Stroll a été en mesure de battre. Bon, également dans la liste, je vois Nikita Mazepin, on n'en parlera pas trop longtemps, mais ça demeure quand même vraiment des pilotes d'envergure. Puis, on a déjà vu des championnats de pilotes dont la moyenne de talent était beaucoup plus basse que celle de 2016, là, même en Formule 3. Bref, je vais laisser Émile prendre la parole également. De ton côté, qu'est-ce qui manque à Lance Stroll, puis où le vois-tu par rapport aux autres pilotes en Formule 1?
Ben écoute, Lance Stroll, comme on disait, c'est souvent tout ou rien soi. Il y a des courses où ça va être vraiment médiocre, tout ça. Ça va être vraiment des courses où qui va être dans les points, voire dans certains cas sur le podium, tout ça. Mais c'est ça, c'est vraiment de la constance qui lui manque. En course, mais surtout en qualification, dire là où ce qui est constant, c'est être, excusez ce que je vais dire, mais être en arrière de la grille, c'est là où ce qui est constant. Aussi, un autre problème avec Lance Stroll, c'est qu'il semble être très bon, mais sur un certain type de circuit. Et c'est surtout les circuits de vitesse, parce que tous les circuits, comme par exemple, ben, je reviens avec Monaco, ou mettons le circuit en Hongrie, tout ça, tous les circuits à basse vitesse, ils ne semblent pas s'adapter. Et on parle de circuits qui font quand même la moitié de la saison, tout ça. Quand tu es pilote, Formule 1 ou juste pilote en général, il faut être en mesure de pouvoir s'adapter sur tout type de circuit en toutes conditions. J'ai l'impression que Lance Stroll, il faut vraiment que tous les astres soient alignés pour que tu sortes toute une performance. Quand il va te sortir cette performance-là, ça va être incroyable. On va s'en souvenir. Mais la plupart du temps, il manque un certain élément. Et l'élément qui manque, en l'occurrence, fait en sorte qu'il n'y a pas de très bons résultats. Donc, où je le situerais, je dirais pas entre, par exemple, la 20 et la 15e place, parce que je pense qu'il y a plus de talent que ça, mais par exemple, entre la 15e et la 10e place. Parce que, comme je dis, des fois, on voit des trucs. On va voir des courses phénoménales de sa part, mais vu que ce sont pas assez constantes, je peux pas me mettre plus haut que ça.
Marc-André?
J'irais dans le même sens. Je pense que entre la 10 et la 15, c'est une position présentement de ce qu'il nous a montré. Puis je pense que son potentiel peut être plus grand s'il réussit à améliorer certaines choses. On sait aussi que Stroll est quand même un bon mécanicien. C'est un gars qui a appris sur le tard, mais avec Williams, il n'avait pas le choix de bien s'adapter avec la voiture. Maintenant, il y a deux choses qui me titillent avec Stroll. Premièrement, sa vision périphérique est médiocre. Il a souvent eu des accidents qui auraient pu être évités si il avait mieux regardé dans ses rétroviseurs, ou du moins, il y a un angle mort important qui lui a pas fait du bien depuis le début de sa carrière. Des courses gâchées, ou du moins un potentiel de courses gâchées, parce qu'il était en position avec une bonne stratégie, autant au puits que pour le reste. Et l'autre, ben, vous l'avez nommé, c'est les qualifications. Mais encore de là, je pense que s'il sortait peut-être de l'écurie de son père, peut-être qu'il pourrait avoir de meilleures performances. Encore là, c'est très hypothétique comme déclaration, mais j'ai l'impression que s'il améliore sa vision périphérique, qu'il obtient de meilleurs résultats, c'est aussi la Formule 1, c'est une question de confiance. Hein. Dès que tu réussis à avoir un bon niveau de confiance, tu vas pouvoir bien performer. Et puis tu l'as nommé, il a quand même battu des George Russell et compagnie dans les juniors. Il avait une confiance extrêmement forte dans les juniors. Il est arrivé. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait remonter à certains épisodes depuis le début de sa carrière pour déterminer qu'est-ce qui a joué sur ses performances. Mais je pense que le potentiel est là de grandir encore en Formule 1. Mais il sera jamais champion, mais peut-être qu'il pourrait réussir à entrer dans le top 10 des meilleurs pilotes s'il travaille quelques petites choses.
Charles? C'est sûr que de mon côté, je crois que pas mal tout a été dit. Lance Stroll, c'est un excellent pilote. Malheureusement, je trouve que son plafond pour le moment est très bas. Donc, je crois que c'est ça, en ayant un plafond très bas, c'est sûr que le potentiel de développement reste limité. crois que qu'est-ce qui viendrait grandement aider Lance Stroll serait, comme tout le monde a mentionné, ses tours lancés. Tu sais, c'est quelqu'un qui a excessivement de difficultés avec ses tours lancés en qualification. Tu sais, ceci étant dit, s'il est en mesure de mettre ça dans son arsenal, on verra un pilote qui serait complètement différent sur la grille. Tu sais, on l'a encore vu ce week-end avec son temps de réaction à 0.18 secondes. C'est quelque chose qui est très, très remarquable, à mon humble avis. Donc, comme je dis, son plafond est très bas, mais rien n'empêche qu'il y a place à amélioration. Et en termes de classement, c'est sûr que je le mettrais en fond de 10e place, aux alentours de 9e, 10e. Je crois qu'il y a une voiture qui l'aide grandement à performer, mais il n'est pas en mesure d'aller chercher le maximum de performance de cette voiture-là.
Et si je pourrais ajouter, Julien, juste avant de passer à un autre point, j'ai l'impression que de faire un tour lancé en Q3, c'est toujours ça qui le met dans le trouble. Est-ce que ça vient de lui ou ça vient de son écurie? Là, l'écurie a un peu changé avec Aston Martin et c'est encore la même stratégie. Donc, je me dis que c'est peut-être de lui que ça vient, mais il se met une énorme pression de devoir performer sur un seul tour, alors qu'il pourrait y aller sur deux tours comme la plupart des pilotes, puis peut-être avoir des meilleurs résultats en qualification. Puis avoir une meilleure position en piste pour avancer plus rapidement lors du départ.
Super intéressant. Je regardais les statistiques aujourd'hui là, en qualification de Lance Stroll. Et puis, sur une saison, il n'a jamais battu un coéquipier sur le total du nombre de qualifications remportées. Et ça comprend même Sergei Sirotkin en 2018, où Lance Stroll avait devancé son coéquipier à 8 reprises, tandis que Sirotkin, ça avait été à 12 reprises. Donc vraiment, il y a un problème côté qualification. C'est un peu paradoxal, hein, parce que on dirait que Stroll a de la difficulté en qualification lorsque la piste est sèche, mais lorsque Lance Stroll fait des qualifications sur une piste où il va y avoir de la pluie, comme Turquie, par exemple, mais là, on est en mesure d'avoir une pole position qui est tout à fait exceptionnelle. Donc, vraiment, l'aspect qualification chez Stroll, c'est pas sa force. Ça se peut que ça ne le soit jamais. Est-ce qu'il peut s'améliorer encore? Je pense que oui. Mais je le vois certainement pas devenir, par exemple, un George Russell en qualification qui, lui, a fait ses preuves de façon phénoménale. Où est-ce que je vois Stroll dans un top 20? Je le verrais probablement autour entre la 12e et 15e place. Surtout cette année. Est-ce que l'année passée, j'aurais donné une réponse différente? Peut-être. Mais je vois difficilement comment je peux le classer autrement. Cependant, je pense que Stroll a encore un énorme potentiel pour s'améliorer cette année. J'ai également l'impression que le congé estival pourrait enfin lui donner le répit dont il aurait besoin, parce qu'on s'entend que ce pilote-là a jamais eu de répit là, entre son opération puis le fait de devoir se dépêcher à faire son premier Grand Prix. Mis à part la pause de 3 Grands Prix qui a eu lieu plus tôt cette année, on peut pas dire que Stroll a vraiment été en mesure là, de se reposer convenablement. Donc, je lui souhaite évidemment de s'améliorer. Pour terminer sur Stroll, bon, on le louange un peu, on a été critique également. Question de terminer le sujet sur une note un peu plus positive. Là. C'est quoi la plus grande qualité de Stroll? Ou, si vous avez pas d'idée, c'est quoi votre moment favori de Stroll? Je commencerai par Émile.
Excellente question. Mais honnêtement, je pense que je vais y aller ses premiers points à Montréal. C'est drôle à dire en 2017. Parce qu'avant cet événement-là, les médias n'arrêtaient pas de dire de lui que c'était juste un pilote payant, tout ça. Et le voir avoir ses premiers points, je pense 9e place, si je me souviens bien, devant sa foule à lui, tout ça, voir une telle confiance pendant ce Grand Prix-là, des dépassements dans l'épingle, comme j'en ai jamais vu, tout ça, je me souviens de ça comme si c'était hier. Ce serait vraiment mon événement préféré en tout cas avec Lance Stroll. Bon, évidemment, je pourrais dire son podium à Baku, tout ça, sa qualification à Monza en 2017, tout ça, ou même son podium pratiquement oublié à Monza en 2020, mais je pense que honnêtement, les premiers points à Montréal, je pense que c'était tout un événement.
Carl, de ton côté?
Moi, j'allais avec un événement qui est souvent oublié, mais qui m'a vraiment marqué lors de sa première saison avec Williams en 2017. C'était son départ en deuxième position à Monza après les qualifications sous la pluie. Je me rappelle que Stroll sortait justement de 3 à 5 Grands Prix vraiment assez houleux, où les performances étaient vraiment pas très adéquates. Et de nulle part, vraisemblablement, Stroll est débarqué et nous a démontré qu'il était capable d'excellentes performances sous la pluie. Justement, si je ne me trompe pas, il est parti en deuxième place lors du Grand Prix de Monaco. Mais je vais toujours me rappeler justement ce moment-là en Q3, de le voir justement sortir de ce nuage de pluie-là puis d'arriver de se qualifier en deuxième position. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, surtout venant d'un jeune Stroll d'à 18 ans. Un moment assez marquant, quant à moi. Il a bien évidemment eu des performances plus marquantes, si on veut. C'est podium et c'est ça, sa qualification en Turquie. Mais ce moment-là, lors de sa première saison, quelque chose qui m'a toujours agréablement surpris.
La qualité que tu trouves la plus remarquable chez Stroll? Long silence.
Tu viens de me poser une méchante bonne colle. Écoute, permets-moi d'y penser, puis on y reviendra.
C'est bon, si quelqu'un a de l'inspiration, peut-être Marc-André, je t'ai vu ouvrir ton micro.
Ben écoute, je te dirais que c'est ses départs. Il est fantastique sur les départs. Quelquefois, il va gagner 5 ou 6 positions. Je pense que c'est Charles qui parlait de son temps de réaction tantôt de 0.18. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant quand tu es capable d'avoir un aussi bon réflexe en course, puis c'est pour ça que s'il pouvait avoir des meilleures qualifications, ça l'aiderait grandement parce qu'il serait pas pogné dans le trafic, il serait pas pogné dans des situations où sa vision périphérique le met dans le trouble parce qu'il y a trop de voitures. Donc, ça peut être réglé de manière à s'améliorer en qualification, mais c'est pas rare que on attend la première de passer la ligne puis voir que Stroll a gagné 5 positions. Donc, je pense que c'est vraiment vers ça que j'irais.
Mais Marc-André, je te pose une question là-dessus. Là. Si les départs de Lance Stroll sont aussi bons, est-ce que c'est pas justement à cause de ses pieds de qualification? Lorsque tu commences 18e avec une Racing Point ou une voiture, même une Aston Martin cette année, la voiture de Stroll est bien meilleure que des Williams, des Haas, des Alfa Romeo. Est-ce que ça vient pas un peu... donner une fausse image des réels départs de Lance Stroll? Je te pose la question. Tu peux avoir une opinion.
C'est super intéressant, mais je te dirais que c'était pas rare qu'il réussisse à gagner 3-4 positions avec une Williams lors de sa première saison. Puis c'était grandement la moins bonne voiture. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il part à l'occasion du bon côté puis que ça l'aide? J'imagine que oui. Mais il a prouvé avec la Williams qu'il pouvait avoir des bons départs. Mais c'est certain que ton point est bon. La voiture lui permet probablement d'avoir un avantage sur ses adversaires présentement.
Charles, qu'est-ce que tu en penses?
Je vais aller dans la même lignée que Marc-André. Où est-ce que les départs à Lance Stroll se font probablement sa marque de commerce? On va identifier des pilotes selon certaines parties de leur conduite. Et je crois que les départs sont vraiment donnés à Lance Stroll. Et comme on mentionne, s'il est en mesure de partir en meilleure position sur la grille, son temps de réaction est tellement excellent, puis s'il est en mesure d'éviter le trafic, tu sais, je crois que ce sera un combo qui pourrait être pas dévastateur, mais qui pourrait être un combo à succès, un petit peu comme un trio hot dog poutine chez Valentine. Donc
c'est ça. Cet épisode n'est pas commandité par Valentine, si vous posez la question.
et ça fait à peu près 26 ans que je suis pas allé là. Sinon, mon moment préféré de Lance Stroll, je trouve que c'est une excellente question, c'est Monaco 2021, qui est probablement mon moment préféré, où est-ce qu'ils ont réussi à nous cacher un excellent moment de Pierre Gasly. C'est probablement pourquoi je retiens Lance Stroll comme étant non sans farce, probablement son podium à Bakou. Tu sais, je crois que ça faisait un certain moment que la course automobile canadienne avait vécu un moment de fierté comme ça, sachant que depuis, en tout cas à mon humble avis à moi, là, depuis Jacques Villeneuve, les célébrations avaient été de courte durée. Donc son podium à Bakou avec une Williams, avec une voiture de fond de grille, tu sais, des belles histoires comme ça, j'en prendrai à tous les Grands Prix. Donc voici mon moment préféré de Lance Stroll.
Je pensais que tout le monde allait dire Turquie 2020. À mon grand étonnement, personne ne l'a dit, probablement pour faire différent puis sembler intéressant pendant le podcast. Donc moi je vais m'assumer, je vais dire que c'est Turquie 2020, mon événement préféré. De voir Lance Stroll qui passe la ligne d'arrivée, puis de voir le Purple Sector qui affiche en gros sur ma télévision, j'en revenais pas. Je veux dire, c'était tellement incroyable. Certains diront que c'était circonstanciel, mais l'absurdité de tout ça et également le moment de voir les annonceurs Martin Brundle puis David Croft qui étaient confus mais qui semblaient heureux pour le pilote canadien. Pour moi, ça a été mon moment préféré de Lance Stroll. Mentionnant l'événement préféré de Charles, Monaco 2021. Effectivement, donc lorsque le graphique de Lance Stroll est arrivé dans un moment inopportun pendant la course, ça a généré énormément de publications assez hilarantes, puis on salue Lance Stroll sur le sujet. Bon, assez parlé de Lance Stroll. Terminons sur un autre sujet, puis sur un pilote qui, selon moi, a aussi énormément de pression cette année. Oscar Piastri. Jusqu'à présent, comment trouvez-vous sa saison? Je vais commencer par Charles, on revient avec toi pour commencer.
C'est vraiment une saison qui est en deçà des attentes pour notre cher ami Crikey Down Under. C'est très décevant, puis en même temps, ça ne l'est pas vraiment, tu sais, on va dire, première expérience en F1. Première expérience qui est surtout dans une voiture qui est misérable comme les gens dans les pays d'en haut. C'est vraiment quelque chose qui semble frapper Oscar Piastri. Tu sais, je veux dire, lorsque tu commences à F1, tu vas avoir la chance d'avoir un véhicule qui te permet de t'améliorer, qui permet de te développer. Tu sais, tu vas être dans la meilleure machinerie possible. Pourquoi sa saison est en deçà des attentes? C'est en raison, comme on est si bien au courant de la saga avec Alpine, ouais, ce qui est en grande pompe. Il est sorti sur les médias sociaux disant qu'il n'avait pas signé le deal avec cette écurie-là. Et je crois qu'il s'est un petit peu tiré dans le pied. Tu sais, on a eu de nombreuses discussions à ce sujet au fait que s'il veut sortir de cette pression-là, s'il veut montrer à tout le monde qu'il avait raison, c'est de un, battre Alpine, et de deux, non, on va changer l'inverse. Premièrement, c'est faire des points à multiples reprises, et de deux, dans la mesure du possible, battre Alpine. Et dans le cas échéant, il est en train d'échouer les deux missions principales.
Wow! Je m'attendais pas à un commentaire aussi incendiaire à l'égard d'Oscar Piastri pour commencer. Je vois Carl dont la main brune, donc je vais lui laisser ce que j'imagine être une réplique.
Ah non, écoute, je suis absolument outré. Je ne pourrais pas être plus en désaccord avec l'opinion de Charles. Je respecte que les opinions soient dissidentes au sein du bulletin GP, mais par contre, je vois pas de quoi Charles parle en ce moment. Piastri est un pilote exceptionnel qui, lors de sa carrière junior, a absolument dominé tout ce qu'il a touché. Il faut prendre en compte le fait que c'est sa première saison. Il est contre l'un des meilleurs pilotes au sein de la grille. Quant à moi, un pilote qui mérite bien sa place au sein du top 4 des meilleurs pilotes sur la grille, Lando Norris, et qui... Attendez, laissez-moi parler. Et qui, somme toute, est capable d'égaliser ses performances. Bon, on parle de Lance Stroll qui est pas capable de battre un homme de 43 ans, et après, on ose me dire que les performances de Piastri sont décevantes comparées à l'un des pilotes, des jeunes pilotes les plus excitants, les plus avec l'avenir le plus brillant au sein de la Formule 1. Moi, j'y crois pas. Quant à moi, Piastri démontre la maturité. Il fait sa job, il l'a fait de manière solide, sans faire du drame. Bon, on peut parler du drame de l'an passé entourant Alpine et tout et tout. Par contre, sur la piste, Piastri ne cause pas tant d'accidents, ou du moins à ce que je peux, si je me fie à ce que je me souviens, n'a pas encore causé d'accident, n'a pas été au sein d'un drame quelconque, s'entend bien avec son coéquipier. Quant à moi, c'est une saison... Piastri n'aurait pas pu souhaiter pour une meilleure saison, mis à part une voiture plus performante, bien évidemment.
Émile, tu as également envie de péter un câble? Attends un petit peu, je pense... En fait, je vais laisser l'opportunité à Charles de répondre.
Je crois que Carl a énuméré des bons points, mais tu sais, si tu avais pris la peine d'écouter mon argumentaire, j'ai mentionné que sa saison n'est pas si n'était pas si pénible que ça, sachant la voiture qu'il avait sous la main. Tu sais, ceci étant dit, tu sais, il faut prendre en compte les actions que Oscar Piastri a posées l'an dernier. Et merci pour cette belle vue. Carl qui m'envoie promener lors de cet argumentaire, mais faut quand même comprendre que il a quand même tenu des propos qui, selon moi, tu dois répondre de tes actes. Hein? Puis, tu sais, je veux dire, comme Denis Coderre dit, tu dois être en mesure de marcher de la gomme en même temps que marcher. Puis c'est ça que Oscar Piastri n'est pas en mesure de faire. Dans cette saison-ci. Donc, je tiens à dire que même si le talent est là, il n'est pas en mesure de répondre de ses actions et de ses paroles, ce qui, selon moi, est qualifié comme un échec.
Wow! Émile, de quel côté est-ce que tu te situes?
On peut-tu revenir à Lance Stroll? C'était moins pire. Là.
Non, malheureusement, tu vas devoir parler d'Oscar Piastri.
Ah bon, ouais. Ben honnêtement, je veux dire, je vais être le gars plate, mais... Il fait sa job, mais rien de surprenant pour l'instant. Je veux dire, il semble être proche dans les courses de Lando Norris, tout ça, et par rapport aux autres rookies, je pense par exemple à Nick DeVries, Logan Sargeant, et je pense que j'en oublie peut-être un aussi. Mais c'est ça, il fait son travail, mais sans plus. En même temps, est-ce qu'une rookie devrait faire plus que ça? Je pense que l'objectif principal d'une rookie, c'est d'être le plus proche de son coéquipier, peu importe où son coéquipier se situe dans le classement, tout ça. Mais j'ai pas vu d'étincelle pour l'instant. Bon, évidemment, on est encore en début de saison, tout ça. Mais je prends par exemple l'exemple de Nick DeVries qui, à chaque Grand Prix, on a l'impression qu'il essaie de reproduire un Monza 2020, donc il va pas arrêter de faire d'erreurs, il va tout le temps aller à 110% des capacités de la voiture et ça finit toujours dans le mur. Donc, mon opinion sur Oscar Piastri, vraiment, ça va être plate, mais je suis désolé, ça va être ça.
Très correct. Marc-André, est-ce que ton opinion se limite à un « mais »
Non, pas du tout. Moi, je vais aller à l'encontre de Charles également. Je vais suivre un peu le pas de Carl. En allant un petit peu plus loin, écoute, Oscar Piastri a quitté Alpine parce qu'il n'a pas été respecté à sa juste valeur. Oui, c'est une recrue, mais il ne méritait pas d'être le bouche-trou d'Alpine. Alpine était convaincu qu'Alonso allait signer avec eux, était convaincu que Piastri allait encore rester en F2 puis allait être le petit chien qui allait donner la patte quand Alpine allait le demander. Et Piastri a répondu qu'il ne voulait pas être ce petit chien-là. Et en ce moment, il fait le travail. Il a 5 points, son coéquipier en a 12. C'est pour une recrue qui suit Lando Norris, je trouve ça remarquable. Puis, il n'a jamais été très loin, sauf peut-être à Bahreïn. À Bahreïn, si je ne me trompe pas, ça a été une course plus difficile, mais ça a été sa première également dans la voiture orange. Et puis, si je regarde aussi le portrait général, probablement qu'il s'attendait à avoir une bien meilleure voiture que ça, sa saison recrue, ce qui aurait pu l'aider. On en parle depuis tantôt avec Lance Stroll. Si ta voiture est capable de te mettre dans une situation favorable dès le début, mais ça peut juste aider. Fait que non, moi j'étais convaincu que Piastri allait avoir une saison de ce genre-là, peut-être un peu meilleure, mais la voiture ne lui permet juste pas d'avoir de meilleures performances. Puis la suite des choses va prouver qu'il est l'un des meilleurs pilotes dans le futur. Du moins, il l'a prouvé en F2, il l'a prouvé en F3. Champion quand même de ces deux disciplines et haut la main en plus. Là.
Des opinions assez incendiaires, beaucoup d'animosité, super intéressant comme d'habitude. Pour ma part, c'est pas compliqué. Je pense que Oscar Piastri a une des carrières en série junior des plus impressionnantes depuis Charles Leclerc. C'est très rare qu'on a vu des pilotes être en mesure de remporter le championnat de F3 puis le championnat de F2 à leur année recrue. Si je me souviens bien, c'est ce qu'Oscar Piastri a fait. Donc, chapeau au pilote australien qui a délogé un autre australien de la grille, qui est Daniel Ricciardo. Donc, c'est sûr qu'en tassant un pilote aussi charismatique, qui est la tête d'affiche de Drive to Survive, qui est donc aimé, donc impressionnant avec ses freinages tardifs, qui a pris beaucoup de décisions bizarres au courant de sa carrière, que ce soit avec Red Bull ou que ce soit avec Renault, d'être un pilote recrue qui vient déloger Daniel Ricciardo, même si les performances de ce dernier n'étaient pas exceptionnelles, il en demeurait pas moins qu'il avait remporté une course avec McLaren, donc une première victoire depuis très longtemps pour l'écurie aux couleurs orange. Donc, je pense que Oscar Piastri, présentement, répond somme toute bien aux attentes. Faut également considérer que la McLaren est une voiture qui semble excessivement instable et très difficile à conduire. C'est une voiture qui semble avoir constamment une problématique de frein et constamment une problématique de stabilisation à l'arrière du véhicule. Donc, je pense que Oscar Piastri, avec 5 points, justement, présentement, fait un bon travail. Le seul pilote entre lui et Lando Norris, c'est Nico Hülkenberg, qui est à 6 points. J'ai l'impression qu'Oscar Piastri va finir par dépasser Nico Hülkenberg. Cependant, c'est certain que je vois pas Oscar Piastri battre un des deux pilotes d'Alpine, que ce soit Pierre Gasly ou Esteban Ocon, mais pour deux raisons. La première est que Pierre Gasly et Esteban Ocon sont, à mon avis, des meilleurs pilotes qu'Oscar Piastri à l'heure actuelle en raison de leurs années d'expérience. Et en deuxième lieu, la voiture, l'Alpine est tout simplement meilleure que la McLaren, là. Donc, je m'attends pas à des résultats outre ça, mais quand même impressionnant la part de Piastri jusqu'à présent.
Si tu me permets, Julien, j'aimerais faire une dernière déclaration incendiaire. Au départ de Charles Leclerc, Oscar Piastri va réussir à remporter un Grand Prix natal.
Donc, Oscar Piastri, à ton avis, va remporter
le Grand Prix d'Australie. Oui.
Oh! Quelle année?
Ben là, attends, là. Mettons dans 3 ans.
2074.
Dans 2074 pour Charles et dans 3 ans pour Marc-André. OK, assez intéressant. Puis Marc-André, tu penses pas que Charles Leclerc va remporter Monaco d'ici 3 ans?
Non. Jamais. Il va jamais remporter. Meilleure position d'ici la fin de sa carrière, ça va être une 6e position.
c'est malheureux pour le pilote manégasque.
Désolé, Julien. Qui... Je ne veux pas te faire de la peine.
Ben, écoute, regarde, ça me... J'allais te dire que ça me dérange pas, mais oui, ça me dérange ce que tu me dis, mais... Je veux dire, je me console en pensant à l'ensemble des carrières des deuxièmes pilotes de Red Bull. Cela étant, meilleure des chances à Charles Leclerc, qui, je l'espère, un jour remportera même un championnat du monde. Mais bon, c'est pas parti pour ça avec Ferrari, qui constitue un tout autre sujet qui pourrait occuper, évidemment, le temps de 3 enregistrements. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Et je vous remercie à tous infiniment, d'abord, de votre écoute. Et j'en profite aussi pour remercier chacun des invités. Donc, Émile Legarrette-Turcotte, merci beaucoup.
Ben écoute, merci à toi. Au plaisir de se refaire un autre podcast. Et excellente journée à toutes les personnes qui nous écoutent.
Marc-André, merci à toi également, un habitué.
Ben merci, Julien. Très bon travail pour remplacer Abdou quand même. Félicitations.
Merci. C'est très gentil. Charles également, merci beaucoup de ta présence.
Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Ça fait des belles discussions et félicitations à toi, Julien. Je sais que c'est un job qui est très difficile, prendre le rôle d'animateur au vol comme tu l'as fait, mais tu as su bien saisir le ballon au champ-centre. Donc, félicitations.
Merci beaucoup, Charles, et merci également pour toutes tes belles références aujourd'hui. Je les ai tous adorées. Carl, enfin, te terminer sur des propos incendiaires. Je te remercie infiniment. Toujours intéressant de t'avoir au podcast.
Merci à toi, Julien. Excellent travail. Comme tout le monde l'a mentionné, tu as su prendre le flambeau d'Abdou et prendre justement les règnes du bulletin GP pour un épisode et le rendre légendaire. Donc, je tiens à te remercier, toi, et à bien évidemment Marc-André, Charles et Émile pour cet excellent épisode. J'ai adoré discuter avec vous.
Merci à tous. Et puis, je ne sais pas à quel moment on va se revoir pour l'enregistrement d'un prochain épisode, soit l'épisode 139, mais je suis convaincu que notre cher Abdou saura vous tenir au courant. Évidemment, vous êtes invité à suivre l'ensemble de ses réseaux sociaux, que ce soit sa page Facebook Bulletin GP, que ce soit le compte Twitter également et le compte Instagram. On vous invite également à vous joindre au groupe Facebook La Monoplace et aimer nos pages Facebook et Instagram, qui sont silencieuses depuis quelques temps, mais qui reviendront de force sous peu. Merci encore une fois pour votre écoute et au plaisir d'avoir vos commentaires. Bonne journée.